Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 12 juin, il est 8h30, au programme de cette matinale, nous sommes en plateau et en direct avec Margot, bonjour.
Salut Ben, salut tout le monde.
Chargé de mission, charte forestière de territoire sud Lozère, ce week-end c'est la deuxième édition de la fête de la forêt, l'année dernière c'était à Florac et à Barre des Cévennes, faut varier les plaisirs, c'est donc un peu plus loin cette année, mais ça va pas nous empêcher d'y aller avec Barthas en la personne de Léo, qui va faire de l'animation. Tellement hâte de voir ça, oui, je veux des vidéos. Et à vous, chers auditeurs, auditrices, d'aller du côté d'Alès et de la Grand Combe. On va vous dire tout ce qui s'y passe et pourquoi c'est super intéressant d'y aller. Et en deuxième partie d'émission, je vous propose de partir à la rencontre de Laurence, qui est maraîchère à Bédouès. Ce sera tout à l'heure. La musique aujourd'hui, ce sera Françoise Hardy. Et oui, elle nous a quittés cette nuit. Grande voix et personnalité de la chanson française. Hommage ce matin à Barthas. Vous êtes bien sur le 107 et on y va, c'est parti pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Allez, une fois n'est pas coutume, direction Hong Kong. Vous le savez peut-être, ce petit territoire en bordure de Chine a été rétrocédé à la Chine par l'Angleterre le 1er juillet 1997, à la fin du bail de 99 ans relatif aux nouveaux territoires et des accords entre l'Empire anglais et la Chine. S'en est suivi évidemment des manifs de la part des Hongkongais, de la répression de la part du pouvoir chinois, bref, vous l'imaginez, rien de bien glorieux. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, je vais essayer de la faire courte. Le ciel des Hongkongais a commencé à s'assombrir en 2019 lorsque les manifs pro-démocratiques se sont vus réprimer sévèrement par le pouvoir chinois. Le temps est passé à l'orage ensuite par l'adoption de la loi sur la sécurité nationale le 30 juin 2020. Cette loi réprime les mouvements de contestation. S'ajoute à ça une nouvelle loi sur la sécurité nationale prévoyant des peines de prison à perpétuité pour la trahison ou l'insurrection qui est entrée en vigueur en avril dernier. Ce texte en fait complète la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin dont je vous parlais il y a un instant. Plusieurs catégories d'infractions s'y ajoutent par rapport au texte de 2020. La trahison, l'insurrection, l'espionnage, et le vol de secrets d'État, le sabotage mettant en péril la sécurité nationale, la sédition et l'interférence extérieure. Et quelles sont les conséquences au-delà des libertés pour les citoyens, pour la presse ? Eh ben, elles sont évidemment catastrophiques. Hong Kong est passé, selon Reporters sans frontières, de la 18e place à la 140e place en seulement 20 ans sur le classement mondial de la liberté de la presse. Et un exemple concret pour illustrer tout ça, c'est une radio emblématique, Citizen Radio, qui est contrainte à la fermeture. Elle était réputée pour ses débats politiques, ses analyses et ses interviews, certains programmes étant animés par des figures du mouvement pro-démocratie. Allez hop, rideau. Tout ça... pour se rappeler que dans le contexte dans lequel on est, nous, ici en France, les démocraties sont toujours fragiles, qu'il faut s'y attacher un maximum, être attentif pour les protéger. Vous voyez évidemment où je veux en venir. L'air nauséabond qui plane sur la France pourrait bien nous étouffer, et ce, plutôt que prévu.
Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex fait de beau feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
La grande Françoise Hardy sur Radio Bartas, exceptionnellement. Oui, parce que c'est pas le genre de musique qu'on passe normalement, mais c'est une grande dame de la chanson française. De retour en plateau avec Margot pour parler de la fête de la forêt. Merci d'être avec nous. Tu es chargée de mission charte forestière de territoire sud-Lozère, bah, tout simplement. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la mission charte forestière, tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui, carrément. Alors du coup, effectivement, je travaille donc au sein du PETR, donc c'est le pôle d'équilibre territorial et rural sud-Lozère, qui regroupe les deux communautés de communes, donc Gorges-Cosseven et Cévennes-au-Mont-Lozère. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec tous les acteurs de la filière forêt-bois sur les enjeux forestiers du territoire, essayer de coordonner tout ça et mettre en place des actions. Donc par exemple, la fête de la forêt qu'on a conçue l'an passé en collaboration avec le Pays des Cévennes.
C'est un syndicat mixte du Pays des Cévennes, donc salut Virginie d'ailleurs. Ouais. Alors ce week-end, c'est la deuxième édition. Comment s'est passée la première l'année dernière?
Eh ben écoute, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'était beaucoup de travail. Du coup, ça s'est passé sur deux jours. Une première soirée à Florac qui a été super appréciée, on avait du monde. Et la deuxième journée à Bar des Cévennes. On a eu une fréquentation honorable malgré la météo qui a été vraiment horrible. Donc c'était super intense, mais les gens étaient contents et les gens reviennent aussi, enfin des exposants qui étaient là l'an passé reviennent cette année, donc on est vraiment super contents, on se dit que c'est une preuve qu'on a bien fait le travail et du coup on est très contents de pouvoir refaire ça cette année.
Ça c'est génial parce qu'on ne se rend pas compte, mais les métiers ou les activités liées à la forêt, elles sont dingues et d'ailleurs on voit, on va parler du programme,
ouais.
C'est-à-dire que est-ce que les gens savent finalement qu'il y a autant d'activités liées à la forêt?
Eh ben non, en fait, et c'est là tout l'enjeu de cette fête. On veut faire connaître effectivement la forêt et ses enjeux. Donc on parle par exemple de biodiversité, de changement climatique, mais aussi la filière bois locale qui est vraiment essentielle. Et effectivement, en fait, quand on prend les métiers de l'amont, donc tout ce qui est l'exploitation forestière, le débardage, donc quand on sort le bois de la forêt, mais aussi de l'aval, avec tout ce qui est transformation, sciage, menuisier, en fait, il y a un panel de métiers qui est vraiment très important et qui est assez peu connu. Donc, c'est un peu l'enjeu via, effectivement, des démonstrations de faire connaître tous ces métiers-là, ouais.
Est-ce qu'elles vont bien, nos forêts en Cévennes ?
Eh ben, écoute, ça dépend lesquelles.
Évidemment.
Ça dépend lesquelles, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs, mais on a des essences qui sont vraiment en souffrance, comme par exemple le châtaignier qui a été implanté et qui s'est développé sur des terrains qui n'étaient pas forcément adaptés. Jusqu'à maintenant, ça allait, mais avec le changement climatique, il n'est pas grande forme. Et à l'inverse, on a des essences qui semblent un peu plus résister, comme le pin maritime ou des contextes où on est un peu plus en altitude ou sur des versants nord où ça va quand même un petit peu mieux. Mais globalement, écoute, on apprécie là toutes les pluies printanières. On se dit qu'on commencera l'été un peu plus sereinement que l'an passé ou en 2022. Donc écoute, on croise les doigts pour que ça se passe bien cet été, quoi.
Et pour en savoir plus, je vous invite auditeurs et auditrices à écouter Palabre en forêt, l'émission de Radio Bartas que tu co-animes avec Virginie. Alors, pour le lieu, la fête de la forêt, comme c'est organisé avec donc l'équivalent de ton service, on l'a dit, le syndicat mixte du pays des Cévennes, vous délocalisez, est-ce que c'est pour ça ?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, le territoire de la charte forestière du pays des Cévennes, donc l'animatrice est Virginie Guérois. Son territoire, c'est le nord du département du Gard. Et en fait, le deal du début, c'était on s'aide mutuellement, parce qu'on travaille déjà beaucoup ensemble à organiser la fête, parce que toute seule, c'est impossible. Et l'idée, c'est de pouvoir faire tourner l'événement, donc un coup sur le sud de Lozère, un coup sur le pays des Cévennes. Et cette année, on a la chance aussi d'avoir une nouvelle charte forestière qui est en cours de montage sur le Viganais, ouais. Et avec Joris, l'animateur, qui nous aide aussi. Et du coup, normalement, l'an prochain, ce sera sur son territoire. Donc l'idée, c'est qu'on puisse tourner. Et effectivement, cette année, du coup, ce sera pas chez nous, mais ça sera sur le nord du Gard.
Donc Alès et la Grand Combe.
Ouais, c'est ça.
Eh ben, on y va. Ça commence ce vendredi soir à Alès avec une projection.
Ouais, tout à fait. Une projection au Ciné-Planète d'Alès, donc en plein centre-ville, avec une soirée gratuite où on aura du coup la diffusion du film Le Chêne, qui est vraiment un très beau film, donc de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux. Donc il y aura cette diffusion là, une courte présentation du programme par les acteurs de la fête, et puis on finira par un petit cocktail forestier là pour le coup qui est fait par une Cévenole, donc la Vallée de Gaïa à Saint-Hilaire-la-Vite, qui nous avait déjà régalé l'an passé avec du coup des petits produits locaux et forestiers.
On va peut-être pas pouvoir tout dire du programme, ouais. Parce qu'il est dense, mais il y a quelques incontournables. Alors c'est aussi une journée de plus par rapport à l'année dernière,
ouais, tout à fait.
Donc voilà, et le samedi c'est pas vraiment la fête de la forêt qui elle lieu effectivement le dimanche, mais il y a quand même plein de choses qui se passent.
Ouais, tout à fait. Cette année, on a décidé du coup de séparer la journée de la fête, donc comme tu disais, qui est le dimanche, et les sorties et visites en forêt, qui seront donc le samedi, pas forcément à la Grand Combe. Donc on a plusieurs sites dans plusieurs communes du pays des Cévennes. Mmh. Certaines sont sur inscription, donc soyez vigilants parce qu'il y en a certaines qui se remplissent assez vite. Mais effectivement, plusieurs visites, donc soit visites par exemple d'entreprises, type la visite de la scierie de Sandras, soit des balades en forêt avec différents acteurs.
Ouais, vous aviez fait une émission Palabre en forêt avec lui et c'est un personnage haut en couleur. J'ai eu la chance de passer une soirée avec lui ce week-end. Il nous a fait une démonstration rigolote sur le comment faire des instruments de musique avec des choses de la nature. C'est génial. Alain Renaud sera de la partie.
Ouais, on est très contentes de pouvoir avoir Alain dans le cadre de cette programmation. Donc Alain qui est ethnobotaniste, qui est vraiment un puits de savoir et qui est vraiment passionnant. Et qui propose une balade à Concoul à la découverte des plantes comestibles. Donc je vous invite vraiment à faire le déplacement parce que ça vaut le détour.
Ouais, c'est sûr. Oui, et le dimanche. Alors là, il y a du lourd. Et je me suis dit, en préparant cette émission, tu l'as abordé d'ailleurs, mais ça a dû être un boulot de dingue. Vous avez dû avoir la tête sous l'eau pendant 4 mois. Hein.
Ouais, c'est un peu l'idée. c'est un peu ça. Mais comme je disais, on a la chance du coup d'être deux à bosser dessus et maintenant trois avec Joris. Et comme je le disais aussi, il y a plein de choses qu'on a pu... En fait, il y a des gens qui ont souhaité revenir, qui étaient là l'an passé. Donc, on a des contacts qui étaient déjà pris. La programmation, on savait un peu plus là où on voulait aller que l'an passé. Donc, effectivement, gros boulot. Et on est plutôt contente du programme dont on est arrivé à sortir. Et effectivement, il y aura plein de choses pour cette journée du 16 juin à la Grand Combe. Ouais.
Et précisons déjà que c'est très familial en fait. Vous avez vraiment axé beaucoup de choses parents, enfants.
Ouais, tout à fait. En fait, il y aura plusieurs animations et activités. Et donc, plusieurs. Tu parlais parents-enfants. On a par exemple une session de yoga en forêt, parents et enfants. Ça va être super sympa. Et on a aussi plusieurs ateliers créatifs pour les enfants. Mais on a aussi des activités pour les adultes sans enfants, je tiens à le préciser. On aura des ateliers manuels aussi, du yoga adulte. Enfin voilà, c'est effectivement, on essaie de trouver des activités, des animations un peu pour plaire au plus grand nombre.
Et allons-y, parlons des conférences et des projections, parce qu'à 10h30, c'est une projection, ça commence par une projection.
Oui, c'est ça. Du coup, c'est le Centre National de la Propriété Forestière, qui est donc le service public qui aide les propriétaires privés à gérer leur forêt. En fait, ils ont créé un film sur le pin en Cévennes, parce que du coup, le pin, et notamment le pin maritime, est souvent un peu détesté en Cévennes, et c'est pour essayer d'objectiver tout ça et de communiquer dessus. Et du coup, effectivement, ils proposent une projection à 10h30, suivie d'une petite discussion pour qu'on puisse leur poser toutes les questions sur ce sujet-là.
Alors malheureusement, dans le Var, ça y est, il y a eu le premier incendie de l'année. C'est un sujet ô combien important et qui va encore nous impacter cet été, c'est sûr. Et vous allez décider de faire une table ronde là-dessus.
Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles qui coordonne cette table ronde. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter sur ce sujet qui est vraiment angoissant. Mais c'est du coup essayer de comprendre comment l'organisation de la lutte contre les feux de forêt est faite. Parce qu'il y a vraiment une organisation qui est vraiment en place, notamment dans le Gard, où ils sont vraiment bien développés. Mmh. Et l'idée, c'est de pouvoir un peu balayer, comprendre comment ça marche, comprendre les enjeux, etc.
Nous, on est plutôt, en Lozère, je parle sur Lozère, on est plutôt épargnés.
Bah écoute, pour le moment, ouais, on a eu peur en 2022, ouais. Où on a eu des feux vraiment aux frontières. On a eu le feu à Bessèges qui a brûlé 600 hectares, et le feu aussi à frontière Lozère-Aveyron qui a brûlé plusieurs milliers d'hectares. Pour le moment, oui, mais on n'est pas à l'abri d'un feu. Voilà quoi, quand on voit les étés qu'on a comme l'été 2022, il faut croiser les doigts et faire confiance du coup, à nos services forestiers, aux pompiers.
Vous aviez fait une émission là-dessus, je ne sais plus, mais je remettrai le lien, auditeurs, auditrices, si ça vous intéresse. C'était super intéressant. La forêt Cévenole d'hier et demain, quel avenir? Tout un débat.
Ouais, alors là, on a une star. Alors, une star qui est connue que par les forestiers, qui est Hervé Le Bouler, qui est du coup un forestier reconnu nationalement, qui était là l'an passé et qui nous fait l'honneur de revenir cette année. Pour effectivement parler de ce sujet-là, donc la forêt d'hier, parce qu'en fait, du coup, on va être à côté de la forêt du Rouvert, qui est une forêt qui est issue, du coup, qui est liée à une forte histoire, à l'histoire des mines. Mmh. Et donc, du coup, on a invité Hervé et on aura aussi un spécialiste des mines qui pourra nous parler un peu de l'histoire du territoire et ça va être super intéressant.
Non, on l'a pas dit, hein, mais enfin, on l'a dit au début, mais autant le répéter, c'est à la Grand Combe. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, ça sera. Du coup, quand on sort de la Grand Combe en direction de la Valpradelle, on a la maison du mineur et on sera juste en face, mais je pense qu'on sera bien visible. Voilà, parce que normalement, on a la chance cette année d'avoir une scénographie qui est faite par le hangar au gorille. coup, qui, voilà, qui travaille notamment avec le festival Dolt, etc. Donc, on devrait pouvoir être visible de la route, donc on est très contente.
Ah ouais, c'est la classe.
Ouais.
Ah bah, bravo. Et qu'on salue le hangar au gorille. Évidemment, des animations tout au long de la journée, notamment. J'ai lu quelque part qu'il y aura une soixantaine d'exposants,
c'est ça ? Tout à fait. Ouais, ouais. Exposants, du coup, c'est vraiment très large, mais on a parlé déjà du coup des acteurs de la filière forêt-bois qui vont faire des démonstrations tout au long de la journée. On aura un marché forestier, donc ça, du coup, c'est des producteurs qui transforme ou cueille en forêt, donc des produits forestiers, des artisans qui travaillent le bois, donc c'est vraiment très large et effectivement on aura une soixantaine d'acteurs. Ouais.
Et alors évidemment pour organiser tout ça, il y a forcément des partenaires, peut-être pas tous les cités. Ouais. Alors déjà nous, on est très contents, les partenaires médias de votre événement, c'est super, mais quelques partenaires et financeurs importants.
Ouais, alors du coup, effectivement, donc c'est un événement, nous on va pas avoir de recettes, hein, notre objectif c'est pas de faire de l'argent avec l'événement, donc toutes les animations sont gratuites et du coup on a fait des demandes de subventions pour nous aider à organiser l'événement. Notre principal financeur c'est donc le GAL des Cévennes au Rhône, le GAL des Cévennes au Rhône.
Au Rhône, j'aime bien, là dès 8h30, allez hop. C'est parti.
Avec donc des financements leaders, on a le Parc National qui nous accompagne pour la deuxième année. Et après, on a du coup deux mécènes, le Crédit Agricole Caisse de la Grand Combe et le Festival Nuit des Forêts qui est un événement au niveau national dans lequel on s'inscrit pour nos deux animations en soirée. Du coup, on a parlé de la soirée du vendredi soir. Et on a aussi une balade nocturne en forêt qui est organisée par le syndicat des forestiers privés du Gard.
Oui, parce que la forêt est aussi une terre de conte. Et là, ce sera un peu l'idée le samedi soir.
C'est ça. On a du coup on a une session de conte, effectivement. Et là, ça va être très intéressant. C'est au Chambon. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se promener en forêt, d'avoir des contes, mais aussi d'avoir un forestier qui nous explique un peu la gestion forestière, les enjeux, tout ça. Donc ça va être vraiment chouette.
C'est clair. Pour s'inscrire, auditeurs, auditrices, c'est auprès de Cévennes Tourisme, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, parce qu'on a certains ateliers, certaines animations qui sont malheureusement en place limitée. Et du coup, il ne faut pas hésiter à se référer au programme qui est du coup consultable sur forêtcausecévennes.fr ou sur nos réseaux sociaux Fêtes de la Forêt des Cévennes. Et donc, vous aurez le détail de toutes les animations et celles qui sont sur inscription. Et du coup, le numéro, c'est le 04 66 52 32 15. Mais n'hésitez pas à regarder le programme, vous avez toutes les informations.
C'est ça, et je mets évidemment tous les liens, le numéro de téléphone sur notre site dans un instant, forêtcausecévennes.fr. Merci beaucoup, Margot.
Merci à toi, Ben.
Prochaine émission de Palabre, ce sera quand ?
Eh bien, écoute, mois de septembre, je pense, on fait la petite pause estivale et on se retrouve en septembre pour Palabre en forêt.
En direct ?
Yes, on va essayer.
Ce serait génial. Merci beaucoup et on salue Virginie. Tu es chargée de mission charte forestière Sud-Lozère. Et Palabre en forêt, c'est diffusé sur cette antenne les mardis à 11h, une semaine sur deux, ou le vendredi à 8h30, et ce week-end, c'est tout le week-end entre Alès et la Grand Combe. À très bientôt.
Salut, salut, merci.
Allez, dans un instant, on part à la rencontre de Laurence. Et ce matin, hommage à Françoise Hardy, on écoute des ronds dans l'eau. Et si je mettais le volume, ce serait pas mal, tiens.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. l'idiot, l'idiot de ton village, qui lui est resté là pour faire des ronds dans l'eau, pour faire des ronds dans l'eau.
Ben voilà, nouveau numéro de Producteur de Sens. Bédouesse chez Laurence Maraîchère, accueilli par les chiens comme il se doit. Salut les loulous. Salut Laurence. Ça va bien?
Ouais, toi?
Ouais, ça va, en forme?
Ouais.
C'est sympa chez toi?
Ouais.
Voilà.
On aime bien, oui, effectivement. Alors, je suis Laurence, installée à Bédouès depuis 2017, maraîchère depuis 2014 suite à un changement de vie, on va dire. J'ai fait ma crise de la quarantaine, donc après 20 ans dans le salariat, où j'étais plutôt dans le domaine commercial, management, j'ai voulu faire ce qui me semblait être ce pour quoi j'étais faite.
T'as combien d'hectares ici, à peu près?
Techniquement parlant, j'ai 13 hectares de surface agricole utile, la SAU, et j'en cultive 2.
C'est un choix ou c'est parce que tu te dis 2 hectares, c'est suffisant et...
C'est-à-dire que mon activité principale, c'est le maraîchage diversifié. Et 2 hectares en maraîchage diversifié, c'est déjà, à mon sens, beaucoup pour une seule personne.
Tu peux nous expliquer ce que c'est que le maraîchage diversifié?
Oui, pardon. Le maraîchage diversifié, c'est donc faire une multitude de légumes au gré des saisons. Donc, c'est-à-dire, je produis à peu près une quarantaine de légumes différents, entre les oignons doux, les oignons jaunes, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines, les radis, l'ail, les betteraves, etc., etc. Quoi. Tout ce qu'on peut... Presque tout ce qu'on peut manger et ce qui veut bien pousser ici.
On va voir les poules ?
Oui. Ah.
T'en as combien des poules ?
J'en ai 240.
Oh,
alors oui, ça fait toujours cet effet-là, mais 240 à titre professionnel, c'est considéré comme un petit élevage.
Donc là, élevé en plein air, c'est vraiment pour les œufs. Tu fais de la viande ou...
Non, pas non. Du tout, uniquement pour les œufs. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je suis en maraîchage biologique. Ouais. Voilà, donc les poules sortent tous les jours. Et là, elles sont dans des petits poulaillers qu'on dit mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer, bon, pas très souvent, mais au minimum 3 fois dans l'année, de façon à ce qu'on puisse changer les parcours et qu'elles puissent avoir un peu d'herbe. Là, tu vois le parcours qui était enherbé il y a un mois, ben voilà dans quel état il est après le passage des poules. Il n'y a plus d'herbe.
J'adore.
Et il y a de l'autre côté qui est un autre parcours, pareil. Donc on essaie de faire tourner de façon à ce que l'herbe puisse avoir le temps de repousser. Et même d'un point de vue sanitaire, c'est mieux pour elle.
Tu dis agriculture bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire label, ça veut dire cahier des charges, ou alors tu t'es juste dit, moi je suis en bio, mais je veux pas de label, je veux... Comment ça se passe exactement?
Je suis, on va dire, comme on dit, certifiée bio, c'est-à-dire que j'ai le label agriculture biologique. Ça sous-entend que je respecte le cahier des charges et que je suis contrôlée au minimum 1 à 2 fois par an par un... C'est minimum 1 fois, voire 2 fois, où il y a vérification et cohérence entre toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente. Et j'ai même eu une fois, donc ça c'est aléatoire, une analyse inopinée de pommes de terre. Voilà, j'ai eu un prélèvement de pommes de terre de fait. Et ils sont allés rechercher s'il y avait des matières actives interdites.
Ouais, voilà. C'est sérieux, c'est génial. Et les contrôles sont gratuits, ils viennent comme ça ou tu dois quand même payer des choses à l'année?
Alors on paye, hein, on paye la certification. C'est un minimum de 450 € par an. Et donc ça nous ouvre quand même le droit de pouvoir apposer le label agriculteur biologique sur nos produits.
et ce qui nous permet aussi, pour moi ce n'est pas le cas, mais de pouvoir vendre dans les magasins bio. Si nous ne sommes pas certifiés, labellisés bio, on ne peut pas vendre dans tous les magasins bio. On ne peut pas s'auto-déclarer bio.
On va parler des canaux de distribution et des boutiques paysannes, évidemment. Un petit peu d'actu, évidemment, il y a un gros mouvement d'agriculteurs, agricultrices qui s'est levé depuis quelques mois, notamment pour parler du coût, hein, et effectivement, que les producteurs, productrices ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Quel est ton regard là-dessus, sans forcément nous dire ce que tu gagnes? Est-ce que pour toi ça va? Est-ce que tu connais des maraîchers, maraîchères qui sont en galère? Quel est ton regard sur cette agriculture un peu que tu poses aujourd'hui?
Alors oui, bien entendu, j'étais, on va dire, entre guillemets, solidaire du mouvement, parce que je sais que, notamment dans les circuits longs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur activité, malgré toutes les heures qu'ils passent à travailler. Personnellement, je ne me suis pas sentie concernée puisque je ne vends qu'en vente directe, donc je valorise au maximum ma production. Et aujourd'hui, moi, je ne vis, on va dire, à 98% que des ventes de mes produits. Je fais une déclaration PAC, donc politique agricole commune, hein, les aides de l'Europe, mais c'est quoi? C'est 1000 euros. Je ne vis pas des aides de l'Europe, donc le jour où il n'y a plus d'aides de l'Europe, ça ne changera pas ma vie. Ce que je regrette, c'est que les seules réponses qui ont été apportées aux problématiques des agriculteurs, c'est finalement, vous pouvez continuer d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc là, c'est pas normal, c'est aberrant et la réponse n'a pas été apportée. Ce n'est pas ce que demandaient les agriculteurs. Je ne ferai pas plus de commentaires, je ne veux pas faire de politique. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage.
On peut, comme tu veux, on va où tu veux. Ah ouais, ouais, avec grand plaisir.
Le jardin aussi.
Ouais, ça c'est... Alors justement, on va parler des réseaux de distribution. Donc toi, tu es en vente directe. Donc on va dire que c'est directement de toi au consommateur.
C'est ça.
J'en fais partie. Et mais il y a aussi boutique paysanne. Alors commençons par le début. Les consommateurs comme moi, donc là, pas de marge en plus, contrairement à ce qui peut être prodigué dans certaines boutiques. Explique-nous comment ça marche.
Alors, le réseau des boutiques paysannes, donc, c'est considéré comme de la vente directe, puisque les boutiques sont gérées, autogérées par les producteurs, et nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, à chaque fois qu'un client vient dans une boutique paysanne, eh bien, il est servi par un producteur, un agriculteur. Donc ça, c'est considéré comme de la vente directe. Alors, juste un petit rappel, la différence entre vente directe et circuit court. Circuit court, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça veut dire que circuit court, on peut avoir un intermédiaire. Donc quand on vend par exemple à un magasin bio, ça c'est du circuit court, puisqu'il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, qui est le magasin bio. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne fais que de la vente directe, donc marché, vente à la ferme et boutique paysanne.
Ici, donc, c'est celle qui est sur l'Esplanade, hein, c'est ça?
C'est ça, la boutique chez les paysans de l'Esplanade, à Florac. Et je suis également dans une autre boutique paysanne qui est à Gignac, dans l'Hérault. Puisque je ne l'ai pas dit, mais en 2014, j'étais installée dans l'Hérault.
Alors, vous êtes combien dans la boutique paysanne ici sur l'Esplanade à Florac? Et concrètement, comment ça se passe pour y rentrer si jamais les producteurs, productrices nous écoutent?
Alors, nous sommes 16 producteurs. Nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, c'est une boutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, autogérée. Donc, quand vous dépensez 10 euros à la boutique, il y a 9,20 euros qui revient au producteur, puisqu'il y a un petit pourcentage qui est là pour payer nos factures d'eau, d'électricité, la location, les charges courantes. et les investissements pour la boutique. Ça fonctionne de la façon suivante. Un candidat intéressé doit un minima cotisant à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, donc avoir un vrai statut d'agriculteur. On peut être aussi artisan, donc cotisé à la Chambre des métiers. Mais la vocation des boutiques paysannes, c'est quand même plus des agriculteurs. Mmh. D'ailleurs, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait maximum 30% d'artisans, pas plus. Donc, comment nous y rentrons ? Quelqu'un d'intéressé peut venir proposer sa candidature par écrit. En fonction des produits qu'il propose, s'il y a déjà un producteur présent qui fait les mêmes produits, c'est celui qui est déjà présent qui dit « moi, oui, effectivement, j'arrive pas à assurer en quantité, donc pourquoi pas ?» Mais il peut aussi mettre son veto en disant « non, ce n'est pas possible ». Mais il y a des produits que nous n'avons pas. Voilà. Mmh. Par exemple, nous n'avons pas de volaille, de chair à la boutique. Les candidats sont les bienvenus, mais il y a une sélection à l'entrée. Et après, ça implique aussi du temps à consacrer à la boutique, puisque nous avons des réunions tous les mois. Tout est autogéré, donc il faut faire tous les travaux d'entretien et autres ensemble. Il y a les permanences, il faut livrer régulièrement. Ça n'est pas que poser ses produits et repartir.
Ah, heureusement, c'est ce qui justifie, justement, tu parlais des 10 euros tout à l'heure, quand même un revenu assez conséquent. Ça fait partie d'un tout, quoi.
Alors, ce sont des choix. Ça sous-entend que si on est un gros producteur avec des gros volumes, ça ne peut pas suffire sur un débouché. Et c'est pour, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, quelqu'un qui est habitué à poser, à vendre moins cher, mais à poser ses produits et repartir, ce sont des choix. Là, on gagne plus, mais on donne plus de notre temps. Ce sont des choix.
Là, on est devant ton beau potager, là, avec les poireaux. Ah, il y en a partout. Ouais, c'est ça qui est génial. On dit souvent, finalement, que c'est assez simple de devenir maraîcher, maraîchère. Est-ce que c'est simple ? Et toi, comment t'as appris, au final ?
Alors, mes parents étaient agriculteurs, mais absolument pas du tout dans ce secteur-là. Mon père était, céréalier et producteur de melons. Mais j'ai un BTS agricole en formation initiale, grande culture, donc rien à voir. Donc quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai fait un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, pendant un an, et là spécifiquement sur le maraîchage biologique. Pourquoi le maraîchage ? Parce que dans l'Hérault, le foncier est très difficile d'accès et je vivais sur une parcelle agricole. Et donc, c'était la seule activité agricole que je pouvais faire sans avoir de recherche de foncier difficile à faire.
Et qu'est-ce qui t'a amené ici à Bédouès ? C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ou comment ça s'est passé ?
Mon conjoint est originaire de Lozère, mais il travaille à l'extérieur. Et en 2011, on cherchait quelque chose dans les Cévennes, gardoises, lozériennes, enfin dans le secteur, quoi. Et en 2012, ça ne s'est pas fait. Il se trouve que je me suis quand même installée dans l'Hérault, parce que l'idée, c'était de venir en Lozère et de passer le cap du salariat à l'exploitation agricole. Ça ne s'est pas fait, donc voilà, on a continué de chercher, nous sommes persévérants. Et en 2017, voilà, nous avons trouvé ce site qui est une folie, on va dire. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ça reste quand même une folie. Mais nous assumons.
Ah ça, je l'ai voulu souvent, ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier de maraîchage comme ça, selon toi ?
Le plus dur, c'est le côté physique, parce que comme c'est une petite surface, je suis un peu mécanisée malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de tâches qui se font à la main. Et comme on dit, la terre est basse. Et que quand, chaque année qui passe, c'est un petit peu plus dur à faire. Il faut pouvoir se préserver, parce que là, c'est la 11e année. Et je reconnais que j'essaie de réfléchir à comment je fais mes tâches pour me préserver physiquement. Mais il y a tellement de choses qui sont pleines de joie quand on voit, quand on sème des graines, qu'on plante des petites, une petite graine de tomate, qu'on voit qu'elle pousse, qu'après elle donne des tomates, c'est quand même magique. Donc tout ça, ça passe au-dessus des contrariétés ou des petits problèmes qu'on peut avoir. Et ce qui est difficile aussi, c'est de faire avec le climat qui évolue, même ici. Mais peut-être que ce sera la Côte d'Azur française plus tard.
On continue le voyage avec Laurence. Pour la prochaine question, un petit mea culpa de ma part, car ma question ne va pas être claire sur la question de la restriction de l'eau pour les producteurs, productrices en ce qui concerne le label AB. La production biologique doit faire une utilisation responsable de la ressource en eau et le processus de production doit prendre en compte les conditions climatiques et locales. Bref, ma question n'était pas claire, mais Laurence, avec brio, remet tout à sa place. Merci beaucoup Laurence, que le voyage continue. Donc, dans le cahier des charges pour le bio, je pense pas que l'eau soit... donc, t'as pas de restriction d'eau, entre guillemets. Je pense pas, hein, c'est pas dans... Si, ça y est, ça a changé, c'est trop beau.
Oui, nous avons des restrictions d'eau, parce que là, coule, peut-être on l'entend derrière le micro, il y a le Tarn, donc je suis située dans un méandre du Tarn. Donc, pour pouvoir prélever de l'eau, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est une autorisation préfectorale. Okay. Il faut justifier des surfaces, des besoins cohérents avec les surfaces. Et quand nous sommes en état de crise ou d'alerte, il y a des restrictions et un planning, ça s'appelle les tours d'eau, où on ne peut pas prélever de l'eau comme on veut, quand on veut. Donc là, on peut aller voir. Hein, j'ai une pompe qui prélève l'eau dans le Tarn et j'ai un compteur d'eau. Et je dois chaque année donner mon provisionnel en début d'année et à la fin d'année de relever le compteur d'eau. Et on peut avoir des contrôles de la police de l'eau.
Voilà. Attends, ça veut dire que tu arrives à prévoir la quantité d'eau dont tu vas avoir besoin à l'année ?
Ben, il le faut. Quand on fait la demande d'autorisation de prélèvement de l'eau, il faut pouvoir donner un prévisionnel. Donc ça reste aléatoire, mais c'est aussi, nous sommes des professionnels, on a beau être agriculteur, et aujourd'hui on ne vit pas avec l'air du temps, il faut prévoir, anticiper et gérer les choses, même l'eau.
L'année dernière, on avait connu une sécheresse assez exceptionnelle. Est-ce que tu as réussi à t'en sortir, à passer à travers les gouttes ? Sans jeu de mots, évidemment.
Paradoxalement, nous avons eu moins de restrictions que l'année d'avant. Très surprenant. Mais les tours d'eau sont quand même faits de façon raisonnée et sensée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que nous avons par exemple dans le maraîchage, on peut prendre de l'eau à certains moments de la journée, enfin de la nuit plutôt. En cas de restriction, il faut mieux arroser la nuit. De toute façon, moi je n'arrose que la nuit, les plantes en profitent beaucoup mieux. Et je suis tout en goutte à goutte pour justement limiter la consommation d'eau.
Ça, c'est un bon conseil, hein. Ne jamais arroser en journée, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, surtout en aspersion. On perd plus de 50% de l'eau qu'on souhaite mettre.
On est mi-avril quand je suis chez toi. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des poireaux, qu'est-ce qu'on a dans les paniers ?
Eh bien, l'hiver est terminé et le printemps n'est pas encore arrivé parce que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de serre ici. Je fais tout en plein champ, donc ma saison démarre vraiment plutôt en juin. Là, c'est la période creuse. Il me reste du poireau, quelques betteraves, quelques blettes, mais c'est tout actuellement. Et là, je suis en train de préparer la saison suivante, c'est-à-dire que j'ai semé et planté des oignons, betteraves, blettes. J'ai des fraisiers également, j'ai repiqué des topinambours, alors ça fait pas rêver, hein, mais les tomates, les poivrons, tout ça, c'est encore bien au chaud, ils ne sortiront que mi-mai. J'attends toujours les saints de glace, je reste comme les anciens. D'ailleurs, nous faisons bien, hier il faisait très chaud, et aujourd'hui, moins chaud.
J'avoue. Aujourd'hui, il y a un vent, mais bon, c'est agréable quand même de bosser par ce temps-là, peut-être plus que dans les fortes chaleurs.
La semaine dernière, on se serait cru en été, à 30 degrés à l'ombre, en plein après-midi, là, je ne sais pas combien il faisait au soleil. C'était très très chaud, oui, très très chaud. Moi, je préfère un temps comme ça, oui.
Donc là, si j'ai bien compris, tu prépares tout pour amorcer ta saison. Est-ce que tu as des peurs, des craintes pour l'avenir, ou alors est-ce que tu es plutôt confiante et, en tout cas, ta manière de faire fait que, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera pour toi?
Alors absolument pas, on peut jamais être sûr de rien, mais dans cette profession, il faut un minimum positiver, sinon on peut pas durer.
C'est un vrai plaisir en tout cas d'être là. Et puis donc on retrouve tes produits à la boutique Paysan de l'Esplanade à Florac. Et puis sur les marchés, tu fais des marchés aussi l'été?
Alors ici non. Mais comme voilà, j'ai gardé mon marché depuis 11 ans à Montarnot, puisque j'étais à l'époque à Montarnot dans l'Hérault. Et mes clients fidèles, je peux pas arrêter ce marché-là. C'est pas possible.
Merci beaucoup, Laurence.
Merci à vous et peut-être à bientôt à la boutique de l'Esplanade.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi avec Philippe Cogoluègne pour parler de Enemy BD qui aura lieu le dernier week-end de juin. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Françoise Hardy qui est décédée cette nuit, malheureusement. La chanson s'appelle Le Large. À très vite, ciao.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.